Au nom de Bibliothèque et Archives nationales, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Jocelyne Dazé, chargée de projet à la Direction de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Marie-Thérèse Lefebvre, professeure titulaire de la Faculté de musique de l'Université de Montréal et responsable des recherches sur l'histoire de la vie musicale au Québec. Marie-Thérèse Lefebvre est membre de la Société des 10 et cette conférence est présentée en partenariat avec cette société fondée en 1935 et qui réunit 10 spécialistes de l'histoire du Québec et de l'Amérique française. Leurs travaux sont publiés dans les cahiers des 10 et font découvrir au public depuis 1936 divers aspects de la mémoire et du patrimoine de l'Amérique française. La conférence de Mme Lefebvre, intitulée « Radio-Collège 1941-1956, un incubateur de la Révolution tranquille », raconte l'histoire de cette première émission radiophonique éducative sur la chaîne française de Radio-Canada, qui, avec ses séries portant par exemple sur les sciences, la religion, la philosophie, la musique et la littérature, a en effet ouvert la voie au grand questionnement des années 1960. Une période de questions suivra la communication de notre invité. Sans plus tarder, je cède la parole à Mme Lefebvre. Merci d'éteindre vos téléphones cellulaires et je vous souhaite à tous une très bonne rencontre.
Alors, je tiens tout d'abord à remercier la Direction de Bibliothèque et Archives nationales du Québec de me donner l'occasion de présenter un sujet qui va probablement raviver de merveilleux souvenirs à certains d'entre vous et qui piquera peut-être la curiosité des plus jeunes. On trouvera plus de détails sur cette présentation dans l'article que j'ai publié dans les cahiers des 10 en 2006. Je voudrais également remercier mon assistante, Lana Munger, cachée derrière le rideau, qui va préparer la présentation. Elle est musicologue et elle est étudiante à l'EPSI. Alors, après une brève introduction où je présenterai la structure et le rayonnement de cette émission créée en 1941 à la radio francophone de la Société Radio-Canada, j'analyserai le contenu de cette série que j'ai divisée en 5 grands domaines et je terminerai en démontrant l'importance de cette émission dans la préparation à la manière d'un incubateur de la Révolution tranquille. Radio-Collège, le simple fait d'évoquer ce nom aujourd'hui auprès de la génération née dans les années 30 renvoie à des souvenirs inoubliables d'une époque où, par le truchement des ondes radiophoniques de la chaîne AM de Radio-Canada, toute une jeunesse accédait à un univers de connaissances dans le monde des sciences, des humanités et des arts. Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, écrivait dans la réédition de sa fameuse publication « Des insolences », et je le cite, « À l'époque de ma tuberculose, je me suis allaitée aux mamelles de Radio-Collège. » Gérard Pelletier confiait à Raymond Bergeron en 1986, je cite, « Radio-Collège a été une sorte de nourriture pour les enseignants, aussi bien que pour les enseignés. Cela a contribué à libérer le climat social. À partir de ce moment, on s'est mis à discuter, à échanger des idées. » Jean Sarrazin, l'un des animateurs de Radio-Collège, confiait à Fernand Ouellette en 1961, je cite, « Ce fut l'une des étapes intellectuelles de l'évolution du peuple canadien-français. Beaucoup, en écoutant ces émissions, se surprirent ensuite à penser par eux-mêmes au lieu de s'abandonner à une routine d'esprit mise au point pour eux. Radio-Collège était le témoin d'une naissance, d'une prise de conscience d'un peuple par le labour de son intelligence et de ses facultés, jusque-là maintenues dans les sillons étroits d'une tradition séculaire et immuable. C'est à ce titre que Radio-Collège a joué dans la vie de ce peuple un rôle considérable. » Pourtant, Elzéar Lavoie, sociologue des médias, jugeait que cette émission avait une valeur de cataplasme pour un système d'enseignement secondaire classique anachronique qui se prolongera à l'aide de cette béquille. Je trouvais ce jugement sévère et j'ai voulu en vérifier les fondements. À partir des travaux pionniers de Pierre Pagé, qui vient de publier chez Fides une histoire de la radio au Québec, une synthèse de 30 ans de recherche, à partir de l'analyse des textes publiés par Radio-Collège, de ceux déposés aux archives de Radio-Canada, des archives de certains animateurs, j'ai découvert une dimension fort différente de ces émissions. Un mot semble être sur toutes les lèvres et dans pratiquement toutes les disciplines, du moins à partir de 1949, c'est celui de l'inquiétude, celle dont parlait déjà en 1936 François Hertel. Cette prise de conscience d'apprendre à penser par soi-même, du désarroi d'après-guerre, cette inquiétude spirituelle devant la modernité, sinon devant la modernisation, semble être le leitmotiv des émissions de Radio-Collège et l'écho d'une crise des courants de pensée des années d'après-guerre. Un autre élément, bien que peu d'émissions aient été consacrées à la production artistique proprement québécoise, les séries culturelles ont constitué pour les auditeurs non seulement un lieu de découverte des arts visuels et du grand répertoire littéraire, théâtral, musical, mais aussi et surtout, elles auront permis aux auditeurs de découvrir une nouvelle expression artistique contemporaine. Devrions-nous y voir là le terreau fertile à ciel ouvert de la Révolution tranquille ou plutôt un lieu de fermentation des idées encore tenues sous le couvercle de l'orthodoxie de la pensée unique? Ou, pour paraphraser le titre percutant d'un recueil de poésie de Gilbert Langevin, ce refuge, Radio-Collège, était-il un volcan? C'est ce que j'ai cherché à découvrir en étudiant l'évolution des sujets d'émission. Mais avant d'aborder l'analyse des contenus selon les disciplines, regardons d'abord la structure et l'envergure des émissions. Quelques statistiques. 15 ans d'activité, 4855 émissions dans 15 disciplines différentes, passant de 41 à 56, de 3h30 d'émission à 10h30 par semaine. Le programme de 52 indique qu'à cette date, 17 titulaires, 76 invités, 440 musiciens et 555 comédiens avaient participé à l'élaboration des programmes sous la direction de 6 jeunes réalisateurs visionnaires. L'idée de cette radio éducative vint du directeur général adjoint de la Société Radio-Canada, Augustin Frigon, qui, au moment de la création du réseau français en 1937, met en place 3 départements. Le service d'information, le service de Radio-Canada International et le service d'éducation qui échoua à Aurel Séguin. Selon les souvenirs de Fernand Séguin, Aurel Séguin aurait élaboré le concept Radio-Collège à partir du modèle de l'Université populaire créée à Paris en 1899. D'autres expériences plus récentes l'ont également inspiré. Dès le début des années 30, la BBC de Londres mettait en place un service radiophonique d'éducation populaire et la NBC créait à New York, au moment de la Deuxième Guerre, l'Inter-American University of the Air en collaboration avec l'Université Columbia. Au Québec, le poste CKAC s'était aussi engagé dans cette voie. Entre 29 et 39, il diffusa 2 émissions s'adressant à une clientèle adulte, l'heure universitaire, qui dura 3 ans, et l'heure provinciale, qui diffusa le soir durant 10 ans, 2 heures d'émission musicale précédées d'une conférence sur divers sujets. Il manquait cependant une émission correspondant davantage aux jeunes auditeurs d'âge scolaire. Il faut rappeler que la loi sur l'instruction obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans sera votée en 1943 et que son application à l'ensemble de la population mettra quelques années avant d'être réalisée. De plus, Aurel Séguin doit conjuguer son projet à l'intérieur d'un cadre fédéral, sans empiéter sur un terrain de juridiction provinciale, l'éducation. Pour éviter les susceptibilités, il associe à sa table de discussion des membres des comités permanents de l'enseignement secondaire, les abbés Perra, Alcantara Dion, Émile Baudry et le frère Marie-Victorin participent à ce comité. Mais au fil des ans, le rôle de conseiller s'efface devant la volonté des autorités à voir dans cette émission non plus un complément d'enseignement collégial, comme ce fut perçu durant la première année, mais une formation générale offerte à un large public sous forme d'éducation culturelle. Progressivement, confie Fernand Séguin, on s'est rendu compte que ce comité n'était qu'une couverture et n'avait plus sa raison d'être. Les discussions autour de ce projet ont probablement eu lieu à l'automne de 1940, car dès janvier 1941, on présente une série pilote de Radio-Collège d'1 heure partagée en 4 volets les jeudis après-midi, Parmi les conférenciers de ce pilote, Luc Lacourcière, René Garneau, Charles Bonenfant, Léopold Morin, l'abbé Tessier, Jean Bruchézy, Jean-Marie Gauvreau. Ce pilote se termine en avril et la direction constate un intérêt suivi des auditeurs, non seulement des collégiens, mais aussi pour tous ceux qui ont un goût de culture. Aurel Séguin décide d'aller de l'avant et prépare le premier programme officiel et Augustin Frigon inaugure la série le 24 septembre 1941 et annonce les 15 disciplines qui seront représentées et leurs titulaires. Et il précise qu'il recherche, je cite, « à rejoindre la jeunesse étudiante et que le titre de l'émission n'indique aucune relation entre les collèges classiques et la radiodiffusion ». On peut s'étonner de la vitesse avec laquelle cette émission, somme toute relativement austère et sérieuse, acquiert une telle popularité, mais il faut voir les moyens que met en œuvre Aurel Séguin pour développer son auditoire. Dès 1941, la Société Radio-Canada publie un programme horaire substantiel. 23 pages en 1941 et diffusé à 5 000 exemplaires, jusqu'à 47 pages en 1955 et publié à 32 000 exemplaires. Ce programme est envoyé dans toutes les régions du Québec où se trouvent des stations relais. On mentionne en 1947 que l'émission atteint maintenant 500 petites municipalités. L'objectif de rejoindre les auditeurs que le développement des grands centres prive de l'accès facile aux concerts, musées, bibliothèques, galeries d'art est maintenant réalisé. Le peintre Armand Vaillancourt en témoigne. Je cite, « J'ai passé 18 ans dans une ferme pauvre des Cantons de l'Est, le 16e d'une famille de 17 enfants. On travaillait dur. L'hiver, dans la maison, l'eau gelait. Il fallait bûcher, ramasser l'eau d'érable au printemps. La ferme m'a construit et je trouvais quand même le temps de dessiner et d'écouter Radio Collège. » Fin de la citation. Une fois rejoint, cet auditoire doit aussi être fidélisé. On sollicitera donc la participation active des auditeurs par toutes sortes de moyens, car en 1943, on propose un questionnaire concours ouvert dans 6 disciplines auquel on ajoute un prix pour le meilleur texte exprimant une opinion personnelle sur le format de l'émission et sur les ajustements dont elle pourrait bénéficier. En 1945, on crée les cercles d'études afin de réunir quelques auditeurs en studio pour jauger de la valeur des émissions et pour les familiariser avec le travail de réalisation. En 1946, on envoie 10 000 cartes questionnaires, sorte de sondage sur les émissions. La même année, on organise un congrès pour faire le point sur l'ensemble de la production. Et en 1947, on fonde le Club d'écoute ou l'Association des auditeurs de Radio Collège, qui a pour mandat d'étudier les problèmes reliés à la radio éducative et les moyens de l'améliorer. L'émission a ainsi acquis en quelques années une telle visibilité que l'UNESCO demande à la direction de produire des enregistrements de certaines de ses émissions, scientifiques pour la plupart, afin de les distribuer dans certains pays d'Europe dont les infrastructures scolaires ont été détruites durant la guerre. Enfin, dès 1942, pour assurer un suivi et prolonger l'information des émissions, la Société Radio-Canada publie en complément des illustrations, des cartes géographiques. Elle s'associe à la maison d'édition Fides pour la publication des textes des animateurs, alors que les critiques littéraires paraissent ensuite dans la série « Bulletin de lecture » que dirige également Fides. D'autres éditeurs se joindront à cet effort de diffusion et 24 volumes sont mis en circulation durant cette période. On trouve la liste d'ailleurs de ces publications en annexe au livre de Pierre Pagé. Toutes ces activités de développement des publics ont eu lieu entre 1941 et 1949, durant le mandat d'Aurel Séguin, alors que l'orientation des émissions misait sur des apprentissages scolaires complémentaires au système d'éducation. Ces observations ont conduit Pierre Pagé à dégager de l'histoire de Radio Collège deux grandes périodes, 1941 à 1951, de nature nettement pédagogique et diffusée presque uniquement en fin de journée, et celle de 1951 à 1956, à vocation culturelle, grand public et diffusée surtout en soirée. L'analyse des contenus et l'évolution des sujets proposés aux auditeurs nous permettent d'étudier cette division. Ainsi, si Aurel Séguin s'appuie sur des animateurs chevronnés de la génération des Léon Lortie, Louis Bourgoin, le père Adrien Malot, l'abbé Albert Tessier, Marie-Claire Davelui, Claude Champagne, Robert Lévelin, l'arrivée de jeunes réalisateurs comme Gérard Lamarche et Raymond David, qui deviennent successivement directeurs des émissions, puis ensuite Florent Forget, Marc Thibault, suivi de Roger Citerne et de Hubert Aquin, contribuent au renouvellement des thématiques plus enracinées dans la réalité contemporaine et à un choix d'animateurs plus jeunes. La moyenne d'âge était de 30 ans et presque tous au seuil d'une carrière professionnelle. L'évolution de Radio Collège fut donc fortement marquée par les directeurs et les réalisateurs qui s'y sont succédés. Et jusqu'à un certain point, on peut affirmer que le travail accompli par Aurel Séguin et son équipe entre 41 et 49 a créé de toutes pièces un auditoire qui a grandi avec Radio Collège et un environnement maintenant ouvert à des questionnements, des réflexions nouvelles. L'année 1949-50, entièrement consacrée à l'étude du 20e siècle dans toutes les disciplines, donna le coup d'envoi à cette transformation. On proposait alors aux auditeurs un regard sur leur siècle qui allait avoir 50 ans. Passons à l'analyse des émissions. Afin de mieux saisir l'évolution des thèmes et le contenu des émissions, nous avons regroupé les 15 disciplines qui se partageaient environ une heure et demie tous les jours de la semaine, ainsi que le dimanche, en 5 domaines, soit le domaine des sciences, comprenant l'histoire des sciences, la botanique, la zoologie, la biologie, les humanités, qui regroupent l'histoire générale, l'histoire des institutions canadiennes, géographie humaine, sociologie et ethnologie, la religion incluant la philo, et enfin les arts, musique, arts visuels, littérature et le théâtre. Regardons tout d'abord le tableau des sciences. Chaque ligne représente 26 semaines au départ et à partir de 46-47, l'émission est prolongée selon ses heures, mais diminuée en nombre de semaines et elle se présente sur une période de 20 semaines. Le domaine des sciences représente à lui seul plus de 385 heures d'émissions diffusées durant 15 ans. Plusieurs d'entre elles seront assorties de dramatisation ou de sketch afin de rendre la matière plus vivante. De 41 à 49, les enseignements de l'histoire des sciences, de la botanique et de la zoologie sont essentiellement de nature descriptive. Alors, au tout début, vous voyez les cours du frère Marie-Victorin. Il n'y a pas de cours de zoologie. La biologie va arriver un peu plus tard. Et donc, pour cette période-ci, ces cours sont relativement factuels. Mais à partir de 1949, à la page suivante, l'admirable communicateur scientifique Fernand Séguin aborde la biologie de manière à diriger les auditeurs, ici, de diriger les auditeurs vers une meilleure connaissance de l'homme. Dans la mouvance des questions qui surgissent de toutes parts autour de l'inquiétude, cette connaissance du « je » que propose Séguin ne se fait pas sans résistance. L'initiation qu'il propose en 1949 et en 1950 aux grandes découvertes de la biologie jusqu'aux frontières de la matière et de l'esprit, ouvre la porte à l'étude de la psyché et des maladies mentales. À partir de 1951, sous le titre « Connaissance de l'homme », il aborde l'étude de la vie psychique, de ses conflits, la dépression, la confusion, l'hallucination. Il introduit des notions nouvelles de médecine psychosomatique, du fonctionnement du cerveau et de la pensée. Il plonge l'auditeur dans les mystères de la destinée humaine en esquissant les grandes étapes de la vie et explique la prise de conscience du soi et du monde qui l'entoure. Dans la foulée des recherches en psychiatrie, il invite en 1953 le docteur François Cloutier à expliquer les mécanismes du psychisme et les problèmes d'adaptation de l'homme moderne, et ce, malgré certaines réserves qu'émet le rédacteur du programme. Car il faut comprendre qu'à cette époque, les maladies mentales et les déviances étaient des sujets tabous. Je cite, « Il suffit de parler des maladies mentales pour faire naître des sentiments ambigus où se mêlent la frayeur et l'intérêt. Les journaux racontent que le nombre de ces maladies qu'on appelle nerveuses par euphémisme augmente chaque année. On publie des romans relatant des expériences terribles. On tourne des films à tendance psychanalytique. Cet engouement pour la psychiatrie est-il souhaitable? Ne voudrait-il pas mieux éviter de parler des manifestations normales et anormales du psychisme humain dans la crainte d'augmenter un intérêt peut-être malsain? On peut poser la question. Il faut pourtant prendre conscience de soi pour apprendre à vivre de façon équilibrée. L'importance prise par la psychiatrie correspond à une nécessité réelle et légitime. Elle a conquis sa place dans l'inquiétude contemporaine. Fin de la citation. L'année suivante, François Cloutier, désormais seul à la barre de l'émission, écrit, et je cite, « Nous nous sommes posé plusieurs problèmes, dont celui de savoir s'il convenait de vulgariser des notions aussi complexes. Les difficultés croissantes de la vie moderne, la fréquence, les réactions psychiatriques et les inadaptations sociales nous ont paru être des justifications suffisantes. Il est temps que les spécialistes tentent de faire pénétrer le public dans un domaine où nous sommes tous concernés. » Fin de la citation. Ces propos sont prolongés en 52 et 53 par Thérèse Gouin-Descaries, jeune chercheure en psychologie, qui explique le développement individuel de l'enfant, les révoltes et les conflits de l'adolescence, un concept nouveau à l'époque, et les difficultés d'accéder à une vie adulte. Elle introduit à ce sujet cette question surprenante pour l'époque et qui annonce les futures réflexions féministes. La maturité et ses masques. L'épouse est-elle ou se comporte-t-elle en enfant ou en mère de l'époux? Les sciences humaines. Dès le début des émissions, l'histoire canadienne tient une place importante dans la programmation de Radio-Collège. Et là aussi, on assiste, à partir de 1947, à une transformation substantielle des contenus. Entre 1941 et 1946, Monseigneur Tessier raconte cette histoire sous forme d'odyssée, dont les thématiques sont prolongées par Marie-Claire Davelui, par des sketchs, des dramatisations historiques. Tessier évoque les principaux personnages, héros, héroïnes de la Nouvelle-France, grands explorateurs du continent américain, rôle des communautés religieuses dans le développement de la chrétienté d'Amérique, une histoire, somme toute, déjà bien ancrée dans les livres scolaires. Jean-Pierre Wood passe aux commandes, alors, où est Jean-Pierre ici, passe aux commandes de cette émission en 1947. Dès lors, ce ne sont plus les faits plus ou moins édulcorés de l'histoire qui sont proposés, mais des analyses critiques du système politique, des luttes parlementaires, les incidences de la Révolution américaine, l'impasse politique de l'acte d'union, les conséquences de la Confédération. En 1949, il interroge la nature identitaire du Canadien, son caractère spécifique, sa culture distincte et sa situation dans le monde. Il questionne les fondements de la Constitution. Il se demande s'il ne serait pas nécessaire d'y apporter des amendements. Lors de la dernière émission de cette série, en mars 1950, Houle discute de l'avenir du Canada et parle de la vocation nord-américaine de ce pays, sorte de trait d'union entre l'Europe et le Nouveau Monde. Il écrit, je cite, « Notons cependant un certain annexionnisme dangereux parce qu'il se présente, sous une forme subtile et séduisante, par l'attrait qu'exercent les États-Unis dans le milieu intellectuel et dans le milieu des professeurs qui s'efforcent d'implanter des méthodes, sinon des programmes, américains. Pour contrer ces dangers de notre dépendance économique vers les États-Unis, il faudra compter dans l'avenir avec d'autres groupes ethniques venus d'Europe. Ces néo-canadiens, que nous devons accueillir avec beaucoup de fraternité, constitueront un élément précieux pour notre économie et notre culture. » Fin de la citation. La suite de ce nouvel apprentissage de l'histoire est confiée en 1951 à Jean-Charles Bonenfant, qui explique le fonctionnement des institutions politiques et judiciaires canadiennes. En 1954, ces sujets sont approfondis dans la série « Enquête sur nos institutions politiques », sous forme de questions que Bonenfant discute avec différents invités. Car, écrit-il, la formation du citoyen est éclairé et vigilant dans un monde d'aujourd'hui, dont le monde d'aujourd'hui a grand besoin. Voici quelques-unes de ces questions. Le texte de la Constitution est-il désuet? Faut-il abolir le Sénat? Abuse-t-on des comités parlementaires? Les commissions royales ont-elles vraiment modifié l'orientation de la politique canadienne? Cette même année, on invitait deux jeunes historiens, Marcel Trudel et Guy Frégaud, à présenter de nouvelles perspectives des recherches historiques de manière scientifique. On lit dans le programme, je cite, « Radio Collège a cru utile d'inviter deux de nos historiens les plus actifs afin de mettre ses auditeurs au courant des conclusions auxquelles aboutissent leurs travaux. Ces conférences constituent une série de mises au point qui jettent quelques lumières sur les époques de la vie canadienne jusqu'au 19e siècle. » Fin de la citation. En 1955, Jean-Charles Bonenfant, soucieux d'expliquer les grandes inquiétudes de l'époque, propose à la série « À la recherche de notre temps », au cours de laquelle il discute avec quelques invités des interrogations de l'humanité en marche. 50 ans plus tard, on s'étonne de l'actualité de ses propos. Voici quelques exemples. Pour l'homme du 20e siècle, Dieu est-il encore vivant? Les grands moyens modernes de communication sont-ils en train de façonner sous nos yeux un autre monde? L'histoire de l'Occident se termine-t-elle avec notre siècle et que laisse présager la montée de l'Orient? Enfin, de 52 à 55, Radio Collège propose un regard sur l'histoire mondiale. Roger Citerne, alors professeur au Collège Brébeuf, analyse en 52 les grandes crises historiques depuis celle des Templiers jusqu'à la mort d'Hitler. À la saison suivante, le philosophe André Dagenais partage avec l'écrivain Eugène Cloutier une série de reportages où sont évoqués les mouvements de l'humanité, les engouements collectifs, les terreurs, paniques, les grandes séductions intellectuelles de l'histoire. Puis, en 1954, Hubert Aquin réalise une série consacrée aux hommes illustres qui ont fait l'histoire. Outre les invités Victor Hengst, François Hertel, Georges Cartier, Jacques Olivier, Hubert Aquin lui-même anime des émissions consacrées à Pascal, Rousseau, Dostoïevski et Malraux. On le retrouve à la dernière saison de Radio Collège à la réalisation de la série Carrefour de l'histoire, où, je cite, rompant avec les formules précédentes, nous proposons des tableaux d'histoire ne faisant usage que de documents directs, sans recours à la moindre transposition dramatique. Ainsi, au lieu de mettre en scène des grands personnages, nous avons choisi de présenter les phénomènes historiques dans un certain ensemble social, politique, artistique, pour nous rendre au carrefour de l'histoire. Fin de la citation. Il est important de souligner qu'à ces cours d'histoire se sont greffés de manière complémentaire des conférences en géographie, c'est la dernière colonne, géographie, sociologie et ethnologie. De 42 à 48, Raymond Tang analyse les liens étroits qu'entretient l'homme avec la nature. Il étudie la soumission parasite de l'homme canadien sur son environnement et son action pour l'ordonner à ses propres fins. Il prolonge cette réflexion en explorant les transformations industrielles, le commerce extérieur, le tourisme régional. Après un tour des principales villes canadiennes, il introduit les auditeurs à la politique et à la culture américaine. Il termine ce panorama en 49 par une introduction aux théories économiques et sociales du 19e, au cours de laquelle il discute du droit du travail et de la liberté d'opinion avec le juge Bertrand, du syndicalisme, du déterminisme social avec Jacques Perrault, des étatistes ou anarchistes avec le philosophe Jacques Lavigne et de la doctrine sociale de l'Église avec l'abbé Jules-Bernard Gingras. Ce dernier prend la relève de cette série en 1949 et 50. Au moment où le Québec vit une crise importante dans le milieu ouvrier, pensons à la répression qui a sévi durant les grèves d'asbestos et autres, l'abbé Gingras propose durant ces deux années une série d'émissions consacrées au monde du travail et à l'autorité. Bien que les prémices de ces conférences reposent sur la doctrine de l'Église, le conférencier évoque dans la première série la nécessité et les droits essentiels de l'organisation professionnelle, le rôle du patron, les vertus de charité et de justice qu'il doit exercer, ainsi que l'acceptation du fait syndical dans un esprit de collaboration. Il explique le fonctionnement du syndicat, lieu de formation et de défense des droits des travailleurs. Il commente le contenu d'une convention collective tout en mettant les auditeurs en garde. Car, dit-il, je cite, « si par malheur une philosophie socialiste règne au sein de l'organisation ouvrière, la méfiance des patrons sera aussitôt éveillée. » Fin de la citation. Il énumère les devoirs et responsabilités d'un gouvernement qui doit réaliser devant la syndicalisation le difficile équilibre entre liberté et autorité. Et il énumère les quatre rôles que doit tenir le gouvernement. 1. L'État doit reconnaître officiellement les associations professionnelles sous la forme syndicale ou corporative. 2. Il doit laisser aux syndicats le soin de s'organiser eux-mêmes, sans s'immiscer dans leur régie interne. 3. Il doit lui prêter l'autorité des lois pour garantir l'observance des contrats collectifs. Et 4. L'État ne doit pas refuser son bienveillant concours pour l'établissement d'organismes de médiation et d'arbitrage dans les conflits de travail. Je ne sais pas, c'est Duplessis, écoutez Radio Collège. La deuxième série est consacrée à l'autorité. Encore ici, même si la position de l'abbé Gingras se situe dans l'orthodoxie de la pensée cléricale, il aborde quand même, en 1950, la crise de l'autorité et il termine la série sur une réflexion d'actualité, l'autorité face aux problèmes de l'heure. L'arrivée de Jean Sarrazin sur les ondes fait l'effet d'une véritable fenêtre qui s'ouvre toute grande sur le monde. De 51 à 56, son émission « Nature du sol, visage de l'homme » invite d'abord à la découverte des peuples du monde, de leurs habitats, leur mode de vie, leur conception religieuse et leur rapport avec le milieu naturel. Loin d'être idyllique ou exotique, les propos de Sarrazin étonnent par leur anticipation des problèmes planétaires actuels. En 1953, il discute de la faim et d'une surpopulation qui, je cite, « cherchant quoi dévorer, cherchant à tromper sa faim, sillonne les routes du thé, du café, du vin, du tabac, du pavot, du chanvre indien. Chacun de ces éléments ayant fait l'objet d'une émission, ses rêves éveillés de merveilleux festins. Il termine ce panorama de la misère humaine par un regard sur les problèmes sociaux, les digues raciales, véritables cancers qui affectent l'Afrique du Sud, particulièrement les problèmes raciaux, les frontières coléreuses de l'islam au Pakistan et le pauvre nègre de la Louisiane. » Fin de la citation. En 1954, sous le thème « Gagner sa vie », Sarrazin propose un tableau de la dure réalité du monde ouvrier dont les métiers sont au cœur de l'industrialisation des pays riches. Mines de charbon, puits de pétrole, qu'il appelle ce fleuve souverain de convoitises puantes, dont il écrit de manière prémonitoire, « Il y a 50 ans, on n'en parlait pas. Dans 50 ans, il n'y en aura presque plus. » Les mines d'or, ce métal stratégique qui opère un renversement dans la hiérarchie des valeurs de la bourse. Les recherches atomiques, qui préparent les grands chômages de l'an 2000. Les trusts, la fluide géographie des capitaux. Fin de la citation. Les textes de Sarrazin ont été publiés et illustrés de manière évocatrice par Charles Daudelin. J'en donne deux exemples. Le chapitre consacré aux immigrants et le suivant, Le monde en mouvement, le chapitre consacré au monde arabe. Donc, on retourne au tableau. Donc, dans ce tour du monde que nous proposait Sarrazin, il y eut quand même un grand oublié, le peuple amérindien, sous le titre « Ces gens qu'on dit sauvages », qui rappelle les préjugés entretenus à son égard, l'ethnologue Jacques Rousseau consacre deux séries à l'hiver et à l'automne 55. À la première, il invite l'auditoire à prendre contact, je cite, « avec une population sympathique qui a joué un grand rôle dans l'histoire et qui fait partie intégrante de la nation canadienne. » Fin de la citation. Dans la seconde série, Rousseau élargit son propos à l'ensemble du continent du Nord et du Sud américain. Il invite Charnolet, Edward Curtis, à parler des tribus de l'Est du Canada, ainsi que le sociologue Marcel Rioux et les prêtres Lionel Schaeffer et Gontran Laviolette. Quatre chercheurs français sont invités à présenter leurs travaux sur les Indiens du Sud. Paul Rivet parle des Andes, Stresser Péin vient parler du Mexique, Alfred Métraux des Antilles et Claude Lévi-Strauss du Brésil. Regardons maintenant religion, philosophie. Bien que le comité pédagogique de Radio-Collège comprenait les quatre membres du clergé, les émissions proprement religieuses ne commencent qu'en 1944 avec les études bibliques que commande l'abbé Adrien Malot jusqu'en 1948. À partir de 1950, on note plusieurs changements dans l'orientation des sujets de discussion, dont celui du rôle des laïcs dans l'Église, sur lequel je vais revenir, et l'introduction de la philosophie comme outil de réflexion pour répondre aux inquiétudes spirituelles du temps. Alors, reprenons du côté des émissions religieuses. Les jésuites Ernest Gagnon et Robert Bernier proposent en 50, sous forme de dialogue, dans une série intitulée « Les pas du destin », une relecture des évangiles et font appel, entre autres, aux symboles de l'art et à la profondeur des masques africains comme source d'inspiration du sacré. En 51, commentant la liturgie de la messe, Ernest Gagnon introduit ainsi son propos de manière fort critique sur la pratique religieuse. Je cite « Tout propos de religion devient, chez la plupart, sans résonance et s'engloutit de son poids au niveau de l'ennui où l'inertie l'abolit dans la grisaille des bons conseils, des mots d'ordre subis inlassablement depuis l'enfance. Il vous reste peut-être assez de santé pour encaisser les sermons inévitables d'ici votre bonne mort. Cette émission que je propose voudra donc, dans ses propos et sa tenue toute quotidienne, faire que le trésor sacré et séculaire de la messe serve à épanouir une religion personnelle et authentique. Son langage d'une spontanéité sans apprêt essaiera, sur le plan intérieur de l'inexprimé vécu, de valoriser l'essentiel. » Fin de la citation. En 1953, sous le titre « Un chrétien devant Saint-Paul », il propose une autre série en forme de dialogue avec un jeune critique littéraire, Gilles Marcotte, afin, dit-il, et je cite, « de dégager les grandes lignes d'une spiritualité chrétienne engagée dans le temps. Le laïc canadien-français est souvent une statue au pied d'argile. Son expérience est étendue, son intelligence est affinée, tandis que sa religion restait souvent au niveau du petit catéchisme. Il ne croit pas organiquement. Des éléments étrangers, certaines philosophies modernes, par exemple, viennent alors occuper la place qu'aurait dû prendre une culture religieuse authentique. À tour de rôle, fin de la citation, à tour de rôle, les animateurs aborderont la hiérarchie de l'Église, le rôle des laïcs, le scandale de la souffrance, l'éducation de la liberté, la foi dans le monde et l'espérance au XXe siècle. L'année 54 marque un tournant décisif dans les émissions à caractère religieux. En effet, les laïcs chrétiens prennent la parole dans une série intitulée « Chronique de la vie conjointe », animée par Simone Monet-Chartrand, Guy Villot, Réginald Boisvert, en présence d'invités dont Yvon Gauthier, Thérèse Descarrie, Françoise Maillet-Lavigne, Louis O'Neill, le père Régis, Gérard Pelletier, André Laurendeau, Guy Rocher et bien d'autres. Je cite, « Il n'y a pas tellement de décades que la pensée chrétienne s'est finalement éveillée à l'urgence d'une recherche délibérée de ce qu'on est convenu d'appeler la spiritualité conjugale et familiale. Il aura fallu, pour secouer notre apathie, l'avènement du XXe, de ces barbaries, des pratiques inhumaines de notre génération dont elle a été témoin. Cette émission espère poser quelques jalons susceptibles d'aider son auditoire dans l'effort d'une réflexion familiale qui s'amorce un peu partout et chercher avec les foyers qui voudront s'y prêter des moyens de revaloriser la vie conjointe. » Fin de la citation. En 1955, observant la recherche d'une spiritualité des laïcs qui est l'un des phénomènes les plus remarquables de la chrétienté au XXe siècle, Simone Chartrand, Réginald Boisvert, ainsi que les pères Germain Lalande et Maurice Lafont prolongent cette réflexion dans une chronique de la vie chrétienne où sont successivement abordés les thèmes du laïcat dans l'Église et du chrétien dans le monde. Et enfin, signe des temps de crise et de changement au sein de l'Église, la même année où les laïcs prennent la parole, le père Dominique Brosseau anime l'émission « Présence de l'Église » et passant en revue son influence décisive dans les grands moments de l'histoire. Le père Gagnon revient sur les ondes pour présenter dans une série « Prières de l'Église » un nouveau mouvement biblique pour retrouver la faveur des psaumes et commente une nouvelle édition de la version chantée des psaumes publiée par le Centre de la pastorale liturgique. Nous sommes désormais en marche vers Vatican II. C'est du côté de la philosophie que les questions reliées à la crise spirituelle des temps modernes se posent avec le plus d'acuité. Entre 50 et 55, on confie à Paul Lacoste le soin d'animer ses émissions. Au cours des trois premières années, les séries seront consacrées à l'histoire de la philosophie, de Bergson, Gilson, Maritain, jusqu'à Sartre, Gabriel Marcel, Emmanuel Mounier. Parallèlement à cette émission, Clément Lockwell propose en 52 sur le thème « Inquiétude spirituelle de notre temps », une analyse chronologique des principaux textes des écrivains catholiques. De deux formes de désespoir qu'il observe à partir des postulats de Kierkegaard et Nietzsche, et après avoir exploré les œuvres, entre autres, de Léon Blois, Péguy, Claudel, Mauriac, Berdanos et autres, il conclut sur une réflexion peu fréquente dans l'enseignement de la philosophie dans les collèges de l'époque. Je cite, « Il y a, immanente à l'avancement spirituel, une crise où l'homme éprouve, pour ainsi dire, le vertige de sa propre liberté. » Fin de la citation. L'étude de ces auteurs que proposait Lockwell se retrouva par la suite intégrée au cours de philosophie des collèges classiques où jusque-là, seul le thomisme était enseigné. Lors des trois dernières émissions de Paul Lacoste seront ensuite consacrées à l'analyse de la crise majeure perçue comme telle à cette époque et dont les causes, écrit-il, relèvent principalement du développement technique et de l'industrialisation qui modifient les mœurs et affectent l'ensemble des institutions qui constituent la société. Famille, école, profession, État, tous ont été atteints par cette évolution profonde. » Fin de la citation. Les questions discutées avec de nombreux invités en 1953 démontrent à quel point cette décennie des années 50 est une époque charnière dans la transformation de la pensée collective. Et même si les réponses seront à ces problèmes seront réévaluées plus tard, il n'en demeure pas moins que ces lieux de discussion furent un véritable incubateur de la Révolution tranquille. On y a discuté notamment de la signification du mouvement communiste, de la légitimité des grèves, des exigences de la femme moderne et de la famille, de la présence de l'Église dans la cité contemporaine, de l'accessibilité à l'éducation, du rôle de l'intellectuel dans la cité, de la liberté de l'artiste, de la conciliation de l'unité et de l'État et de la coexistence de nationalités distinctes. Dans la mouvance de toutes ces questions, il devient tout à fait évident pour Paul Lacoste de proposer en 54 et en 55 deux enquêtes. La première, sur le milieu canadien-français, afin, dit-il, de faire écho à cette crise de conscience de notre collectivité. Fin de la citation. Et dont les questions laissent présager la future commission Laurendeau-Dunton. La seconde enquête, sur l'enseignement, je cite, commandé par la plus brûlante actualité, car les octrois fédéraux à l'enseignement secondaire et universitaire ont alerté et partagé l'opinion publique. Il semble que ce soit au primaire et au secondaire que se posent les problèmes les plus nombreux auxquels il est urgent d'apporter des solutions complètes et efficaces. Fin de la citation. Il annonce ainsi les enjeux du rapport Parent en 1964. Abordons maintenant le domaine des arts. C'était le domaine le plus populaire de Radio Collège si on considère que sur les 15 années d'activité, 1000 heures ont été consacrées à l'expression artistique, soit aux arts visuels, 126 heures, à l'histoire musicale, 295 heures, à la littérature, 270 heures, et au théâtre, 341 heures. Je ferai le théâtre en dernier. Le peu d'émissions consacrées aux arts visuels s'explique par la nature même de cette discipline qui nécessitait un support visuel pour faciliter la compréhension des propos des commentateurs. Dès la première année, Radio Collège met à la disposition des auditeurs des brochures illustrant les conférences de Gérard Morisset sur la sculpture et l'orfèvrerie en Nouvelle-France et celles de Jules Bazin sur l'architecture canadienne. Par la suite, en 1943, puis de 1946 à 1949, les émissions consacrées au musée d'art seront confiées à la violoniste et critique musicale Annette Leduc. Sa présentation, essentiellement des biographies de peintres européens, sont complétées par un programme musical en direct des studios de Radio-Canada sous la direction de Roland Leduc et la musique agissant comme une illustration métaphorique évoquant le contexte culturel des peintres. Devant les coûts probables qu'une telle série générait, la partie musicale disparaît à la fin de l'émission consacrée à l'art contemporain en 1951, mais accompagnée d'œuvres de Hindemith, Roussel, Stravinsky, Jolivet. La série de 1951 « Propos sur la peinture », animée par Robert Ellie et le peintre Jacques de Tenancourt, sera la seule émission à présenter quelques points de repère d'analyse d'un tableau et à insérer des exemples de peintres québécois dont Lyman, Pellan, Bordua. L'émission se termine par un commentaire sur la situation et l'avenir de la peinture canadienne. À partir de 1952, Fernande et Jean Simard dirigeront la série « L'art et la vie » dans laquelle seront explorées diverses thématiques dont « Art et croyance »,« L'artiste et son milieu », »,« Tradition et création ». Soulignons la mise en onde en 1953 d'une nouvelle émission animée par Gilles Sainte-Marie. Qui est en 53, j'ai cette Paris ici, consacré au cinéma, un art qui soulève beaucoup d'intérêt. Il en donne les raisons. Pour évoluer dans le sens de la qualité, le cinéma a besoin d'un auditoire éclairé. Sainte-Marie explique le langage cinématographique, les innovations récentes, les procédés de réalisation, le style ou l'art d'écrire avec des images, la diversité des genres. Et il termine cette série par une jeune histoire du cinéma. Radio Collège a réservé un espace important à la musique classique européenne. Les cours donnés entre 1941 et 1945 révèlent le maître de l'écriture qu'est Claude Champagne. Celui-ci s'en tient à des propos plus techniques, reliés au vocabulaire musical, description des styles et des formes, ainsi qu'à la nomenclature des instruments de musique. Ce dernier sujet sera repris de 50 à 53 d'une manière beaucoup plus vivante par le chef d'orchestre Roland Leduc qui illustre de manière concrète, avec un orchestre en studio, les principaux éléments des conférences. Soulignons aussi la diffusion en direct en 1944 de la série « Le chant du monde » sous la direction de Victor Brault qui, à la tête de la chorale La Cantoria, fit entendre des chants de la tradition orale et des compositions d'inspiration folklorique de plus de 65 pays. Un véritable tour du monde en musique en pleine guerre mondiale. Mais le principal maître d'œuvre de ces émissions, dont certains se souviennent peut-être encore, est certainement Jean Valran. Cet esthète et musicologue avant l'heure expliquera durant 10 ans le sens des œuvres, les contextes socioculturels de gestation et de production, l'esthétique qui se dégage des œuvres selon les époques. Plus de 4300 pages de textes, 650 auditions traversent les 215 émissions consacrées à l'histoire de la musique. Ainsi, ici aussi, les propos, particulièrement sur la musique du 20e siècle, seront marqués du sceau de l'inquiétude spirituelle et de l'angoisse de l'homme contemporain, à l'image des auteurs dont Valran s'inspire. Nicolas Berdieff, Alexis Carrel, Georges Duhamel, Oswald Spengler. Cette approche esthétique est particulièrement évidente dans la série « Musique des temps présents » en 1949. Valran décrit ainsi la musique de son temps. Je le cite. « L'examen des œuvres musicales et l'examen de l'histoire contemporaine nous indiquent de façon évidente, je crois, la caractéristique dominante de l'époque. Il n'existe qu'un mot pour qualifier l'inquiétude moderne, l'angoisse. Et elle commence à partir du moment où l'homme, malgré une attention constante et aiguë à éviter toute erreur, malgré son pouvoir à dominer la nature, prend conscience qu'il conserve la liberté épouvantable de se précipiter lui-même dans l'abîme. C'est une angoisse de ce genre qu'habite l'homme moderne et c'est une angoisse de ce genre qui habite la musique moderne et qui la rend si violente. Je poursuis une autre citation. C'est avec les ruines même de l'esprit moderne que les artistes tentent actuellement de se refaire une âme. Le rôle de l'artiste est d'exprimer la hantise qui retient l'homme de se reconquérir lui-même, d'exprimer le tragique de la vie contemporaine où l'homme a cessé de dominer le progrès pour être dominé par lui. L'art est capable, dans une certaine mesure, d'aider. Telle serait, à mon sens, la fonction de la musique contemporaine, telle serait la leçon que les compositeurs doivent tirer du présent. Écoutons quelques instants la voix de Valran.
L'allegretto de la symphonie de Franck n'a pas de sujet. Et la fantaisie de l'auditeur peut en imaginer un, comme la chose ne peut en imaginer un, comme la chose était possible au cours du premier mouvement. C'est une longue méditation que vient interrompre une bourrasque qui passe à travers les trémolos des cordes. Cette partie médiane du second mouvement de la symphonie de Franck est un véritable scherzo déguisé qui rappelle certains passages du songe d'une nuit d'été de Mendelssohn. C'est comme un vol d'êtres mystérieux qui tourbillonne autour d'un promeneur solitaire. Toute la structure musicale de ce passage est d'ailleurs basée sur le motif de la question du début. Pour évoquer le mystère de la nature, Franck n'a donc pas besoin de toute l'imagerie naïve de Berlioz, il n'a pas besoin d'un programme détaillé rempli de diables et de sorcières. Le fantastique de la symphonie Henri n'est pas littéraire, il est philosophique, j'allais dire ontologique.
Voilà, c'était un extrait que l'on retrouve dans les archives de Radio-Canada. Regardons maintenant les émissions consacrées à la littérature. Bien qu'elles aient été majoritairement orientées vers les écrivains français, on verra que certaines émissions ont évoqué de manière significative la présence des auteurs québécois. De 41 à 49, Luc Lacourcière présente quelques poètes français. L'abbé Robert Lévelin commente les fables de La Fontaine. Fulgence Charpentier fait revivre, sous forme dramatisée, quelques biographies d'écrivains français et Madeleine Gariépy propose l'étude de conteurs choisis à travers le monde. Elle retient du Canada deux contes de Philippe Aubert de Gaspé. En 45 et 46, l'abbé Vincent Bélanger anime avec quelques invités une première série consacrée à la critique littéraire. L'émission intitulée « Avez-vous lu ?» propose un choix parmi les chefs-d'œuvre afin que l'esprit de l'homme puise la nourriture vivifiante et saine dont il a besoin pour s'épanouir et s'imposer. En 47 et 48, cette émission sous le titre « La revue de lecture » passe sous la responsabilité de Théophile Bertrand. Je cite « Ce programme n'a pas tant pour but de faire connaître les auteurs et leurs ouvrages que d'éveiller chez l'auditeur le sens critique, la connaissance des hiérarchies des valeurs, un goût de la beauté qui donne la nostalgie de la sagesse. » L'expérience montre en effet à quelles étranges anomalies aboutissent ceux qui se laissent guider uniquement par l'idée de la beauté. Bien que plusieurs auteurs français choisis soient en conformité avec ce discours moralisateur, se glissent dans l'émission de 1947 et encore plus en 1948 des commentaires sur des œuvres d'écrivains québécois, entre autres Gabriel Leroy, Germaine Guèvremont, Rina Lanier, François Hertel, Simone Routier, Alain Grandbois, Roger Lemelin, Alfred Desrochers, parmi tant d'autres. Mais il faut attendre 1952 pour retrouver cet intérêt des auteurs québécois. Entre-temps, la venue de Guy Boulizon et de Roger Roland, puis de Louis-Martin Tard, aux émissions de littérature et de poésie française, ouvre la voie à un éventail beaucoup plus large de courants littéraires contemporains, incluant 1950, dadaïstes, surréalistes, ainsi que les auteurs étrangers, Italie, Espagne, les pays slaves, nordiques, Israël, le monde arabe, l'Inde, l'Orient et les États-Unis. En 54 et 55, Eudore Piché propose une série « La naissance du poème », un voyage au cœur de l'âme du poète au cours duquel il invite l'auditeur à retracer les sources poétiques, le moment où du réel jaillit son équivalent poétique. La première émission entièrement consacrée aux auteurs québécois a lieu en 1952. Robert Charbonneau présente des analyses littéraires et Philippe Panton diffuse dans la série « Nos romanciers et leurs personnages » des entrevues avec les principaux écrivains. Les auditeurs peuvent ainsi entendre les propos, entre autres, de Félix-Antoine Savard, Yves Thériault, François Hertel, André Langevin, Gabriel Leroy, Germaine Guèvremont, Robert Charbonneau et Robert de Roquebrune. La série s'est terminée par une table ronde sur le roman canadien, réunissant, outre les animateurs Panton et Charbonneau, les invités Roger Duhamel et René Garneau. Écoutons quelques instants l'entrevue de Panton avec Robert de Roquebrune.
Robert de Roquebrune, ça m'est agréable de vous accueillir à la tribune de Radio Collège. Je ne peux pas oublier la vieille amitié qui nous unit. Hélas, ça commence à être une vieille amitié. Mais je suis surtout heureux de vous présenter à certains de nos compatriotes qui ne vous connaissent pas suffisamment encore. Ce sont les élèves de Radio Collège, à qui il faut que nous montrions que nous avons chez nous des gens qui ont fait une marque dans notre littérature, vous particulièrement, qui êtes en quelque sorte l'aîné et qui avait été singulièrement fertile en roman, si je ne me trompe, vous en avez déjà écrit 4. C'est bien ça?
3, mon cher.
Comment 3?
En comptant bien, parce que mon dernier ouvrage n'est tout de même pas un roman.
Ah, c'est vrai.
Mais oui.
C'est vrai. Testament de mon enfance, c'est une autobiographie,
c'est celle
qui est apparue tout récemment chez Plon à Paris.
C'est ça.
Et alors, écoutez, laissons de côté cet ouvrage qui est autobiographique et dont j'aurais voulu analyser le charme. Enfin, nous devons nous consacrer ici au roman. Alors, il y a bien les habits rouges, d'un océan à l'autre, et les dames, le marchand. C'est bien ça.
Quelle mémoire, mon cher ami. Vous souvenez mieux que moi des titres de mes livres.
Ça n'est pas la mémoire. J'ai une note devant moi pour être bien sûr. Mais je dois dire que je...
Ah, c'était vraiment deux vieux amis qui tu connaissais depuis de nombreuses années qui discutaient ensemble. Voilà. L'engagement de l'écrivain Hubert Aquin à titre de réalisateur en 1954 n'est certainement pas étranger à la présence de Gilles Marcotte comme conférencier de la série « Témoignages de notre poésie ». Ce dernier écrit dans le programme, et je cite, « Le domaine poétique du Canada français est d'une richesse insoupçonnée. Qu'un critique français nous dise qu'Anne Hébert, Saint-Denis Garneau ou Alain Grandbois sont de grands poètes, nous n'en revenons pas. Nous crions au miracle. Quelle génération spontanée a permis l'éclosion de telles œuvres sur notre terre ingrate? Il n'y a pas eu de génération spontanée. Ces 3 noms sont les plus beaux moments d'une aventure poétique étonnamment féconde qui commence à Crémazie, se poursuit aujourd'hui dans la jeune poésie à laquelle on peut tout reprocher peut-être, sauf son goût de dire vrai. On a souvent parlé d'influence française à propos de nos poètes, mais on s'émerveille plutôt à lire leurs œuvres, de ce qu'ils soient aussi près les uns des autres, des réalités qui sont notre pain quotidien à nous, Canadiens français. Nos poètes nous parlent et parlent de nous. Il suffit de leur accorder un début d'attention pour nous sentir aussitôt avec eux en état de sympathie, de dialogue. Nulle poésie au monde ne peut remplacer ce que nous apporte la nôtre, cette présence au drame spirituel du Canada français, aux interrogations que suscite notre condition particulière. » Fin de la citation. À partir des lectures de textes et de commentaires, Gilles Marcotte présente ainsi l'histoire de la poésie québécoise depuis Crémazie jusqu'aux parutions récentes de jeunes poètes tels Roland Giguère et Sylvain Garneau, qui venaient de décéder le 7 octobre 1953 à l'âge de 23 ans. La dernière émission que réalise Hubert Aquin en 1955 dans le cadre de Radio Collège, « Chacun sa vérité », interroge les mécanismes de l'invention littéraire et retrace chez quelques écrivains européens les témoignages sur leur quête de vérité. À partir de textes rédigés par quelques invités et lus par de jeunes comédiens, l'auditeur est ainsi invité à plonger dans les univers imaginaires de plusieurs écrivains. J'en nomme quelques-uns. Chateaubriand, Stendhal, Goethe, Byron, Flaubert, Baudelaire, Tolstoï, Nietzsche, Proust, Rilke, Valéry, Kafka. Ici, plus question d'interprétation à saveur morale, mais d'analyse purement littéraire. Je vous invite d'ailleurs ici à lire les études de René Legris sur Hubert Aquin et le théâtre radiophonique. Écoutons donc quelques minutes de cette émission d'Hubert Aquin sur Kafka.
Chacun sa vérité. Sous cette rubrique, Radio Collège vous présente quelques figures d'écrivains. Ce soir, nous donnons la parole à Franz Kafka.
Thank you. discuté un instant de l'intérieur. Et j'ai perçu incidemment quelque chose comme le miaulement d'un jeune chat.
Est-ce lui, ce jeune homme ?
C'est bien Franz Kafka.
Qui êtes-vous ? Je ne vous connais pas. Je ne connais personne.
Oh, ne perdez pas patience, je vous en prie. Écoutez mon compagnon Franz Kafka. Écoutez le grand accusateur.
Je suis coupable, sans doute. Je suis certainement coupable. Mais comment saurais-je de quel crime odieux vous m'accusez ?
Le 3 juillet 1883, à Prague, est né Franz Kafka. Ses ancêtres venaient d'Israël. Ses parents parlaient allemand. Il est donc à la fois juif, allemand et tchèque. Subjugué par son père, il doute de l'amour de sa mère. Il a obtenu un doctorat en droit, mais n'a point eu d'autre emploi que celui de fonctionnaire. Plusieurs fois fiancé, il n'a jamais pu se résoudre à se marier. A écrit plusieurs livres inachevés. Est mort en 1924, victime de la tuberculose. Enterré à Prague. C'est tout.
Alors, on entendait la voix de Robert Gadois, pour ceux qui s'en souviennent. Et ce qui m'a beaucoup étonnée lorsque j'ai entendu cet enregistrement, c'est la musique qu'il y a derrière. Nous sommes en 1954 et c'est la musique d'Edgar Varèse qu'il faut connaître pour reconnaître parce qu'il n'y a aucun endroit où on peut retracer les titres des œuvres qui accompagnaient les séries dramatiques de l'époque. Et donc, ça veut dire qu'Hubert Aquin a peut-être croisé Serge Garand, qui était à Radio-Canada à cette époque et dont il lui aurait parlé de ce disque qui venait à peine de sortir d'Edgar Varèse. Pour terminer, alors, j'aimerais présenter maintenant la dernière discipline, le théâtre. Et là, je vais tout simplement faire défiler très lentement pour que vous voyez un peu toutes les pièces de théâtre qui ont été diffusées à cette époque, en portant une attention particulière là sur certaines d'entre elles. Donc, le théâtre a fait l'objet d'une attention toute particulière dans la programmation de Radio Collège, un fait que Pierre Pagé a bien souligné dans son étude. D'abord intitulé « Le théâtre de Radio Collège », cette prestigieuse série, nommée à partir de 1950 sur toutes les scènes du monde, sera maintenue sur les ondes de Radio-Canada jusqu'en 1975. Contrairement aux émissions littéraires, on ne trouve ici aucune dramaturgie québécoise. Celle-ci trouvera son expression dans une autre émission, Nouveauté dramatique, créée par Guy Brown en 1950. Ce qui caractérise ces émissions est la régularité hebdomadaire de la diffusion et la présentation d'analyses de textes précédant la dramaturgie. Confiés à Jean-Charles Bonenfant entre 41 et 50, ces brefs commentaires préparatoires à l'audition ont d'abord été offerts le mercredi en vue d'une audition de la pièce le dimanche suivant. De 43 à 48, le nombre de pièces diminue afin d'offrir des analyses plus substantielles. Ainsi, chaque pièce est étalée sur 5 émissions et Bonenfant bénéficie de la présence du comédien Jacques Auger à titre de directeur artistique. Un autre élément qui contribuera à la formation du jeune public, de 47 à 49, le théâtre de Radio-Collège présente un vaste panorama historique couvrant successivement, durant ces 3 ans, les 18e, 19e et 20e siècles. Et je précise ici que ce vaste panorama de ces 3 siècles a couvert l'ensemble des disciplines durant 3 ans. À partir de 1950, alors que le titre de l'émission devient « Sur toutes les scènes du monde », le répertoire international contemporain occupe de plus en plus de terrain, non sans soulever cependant certaines inquiétudes devant les thèmes qu'ils mettent en scène et qui sont commentés, entre autres, par Jean-Marie Laurence, Maurice Blain, Émile Legault et Jean-Louis Roux. On prévenait ainsi les auditeurs, je cite, « Le théâtre ne peut résoudre tous les problèmes qu'il soulève, sous peine de devenir doctrinal. Aussi, faisons-nous suivre l'émission d'un bref commentaire qui permet de juger de l'œuvre, de ramasser la thèse, d'éclairer le symbole, voire, quand il s'agit d'un problème de psychologie religieuse dont le théâtre contemporain abonde, de situer le problème par rapport à la perspective chrétienne. Le commun des hommes est condamné à l'âpre recherche. Recherche de l'unité essentielle du couple, tentative d'accord entre la chair et l'esprit, douloureuse poursuite de l'absolu. Et lorsque leur misère est trop grande et qu'ils ne trouvent plus de loi en eux, les uns plongent confiants dans la grâce, d'autres capitulent, crient à l'absurde ou désespèrent. Liberté redoutable d'accepter ou de rejeter, là est le sens du drame moderne. Que ce soit par l'honnêteté des classiques anciens ou par la sincérité des contemporains, le théâtre veut avant tout plaire et distraire, mais s'il lui arrive de semer un peu d'inquiétude, ne nous en plaignons pas. Fait de la citation. J'émets ici l'hypothèse que plusieurs pièces audacieuses de Steinbeck, Cocteau, Hanouille, Miller et Camus ont d'abord été présentées à la radio avant d'atteindre le public en salle. Je donne comme exemple la pièce de Camus « Caligula », présentée le 12 mars 1950, avant d'être créée en février 1962 à la Comédie canadienne par Robert Gadoua. J'en arrive à ma conclusion. Loin d'être la béquille d'un système d'éducation collégiale anachronique, comme le disait Elzéar Lavoie, mais dans une certaine réserve, pour ne pas heurter de front le milieu clérical, Radio Collège nous apparaît aujourd'hui un lieu où s'est développé un ensemble de réflexions qui s'adressait à un public invisible, mais ô combien réceptif, minutieusement préparé annuellement par la réception du programme qui circulait à travers la province. J'ai reçu aujourd'hui le programme horaire de la 12e émission de Radio Collège, écrivait avec joie Ozias Leduc à son assistante Gabrielle Messier. L'analyse des programmes et des textes fait ressortir l'inquiétude existentielle qui traverse de part en part les domaines que nous avons étudiés. Une inquiétude qui s'exprime souvent à mots à peine couverts et qui suscite certainement chez les auditeurs un questionnement en dehors des cadre rigoureux qui fixait la manière de raisonner. La pensée individuelle, réservée jusque-là à quelques artistes et intellectuels hors normes, s'infiltre grâce à ce médium radiophonique de manière plus anonyme. Radio Collège, croyons-nous, a fissuré un système de pensée. C'est peut-être ce qui explique l'immense popularité que connaîtra la diffusion à un public ainsi préparé des Insolences du frère Untel en 1960, publié à plus de 100 000 exemplaires. Quant à l'émission elle-même, l'arrivée de la télévision signe la fin d'une époque. Dès 1954, des réalisateurs se questionnent sur l'orientation à donner à cette émission devenue entièrement culturelle. À partir de 1958, Marc Thibault imprime une nouvelle voix à la radio d'État qui délaisse le profil académique au profit d'une radio culturelle tissée dans l'actualité autour de trois axes. La musique, qui chemine maintenant vers l'émission « Les festivals européens » animée par Marie-Vonne Kendergy, la littérature avec l'émission « L'art et les écrivains » et le théâtre qui se prolonge dans la série sur toutes les scènes du monde. L'arrivée du réseau FM en 1960 marque le début d'une chaîne culturelle entièrement consacrée à la diffusion de la vie intellectuelle, culturelle et artistique du Québec. Elle s'est éteinte en septembre 2004 avec la création d'une radio d'État à vocation populaire, laissant peu d'espace à la parole, espace musique. Merci beaucoup. Quelques questions, commentaires? En a-t-il qui ont déjà entendu cette émission? Ah, OK. Vous en gardez quelques souvenirs?
Excellent. Oui, je vous remercie. Un gros merci pour ce bain de jeunesse cet après-midi.
Aux cheveux blancs.
Je voudrais savoir comment ont réagi les autorités religieuses et les autorités politiques de l'époque devant certaines ouvertures qui étaient proposées. Quand je pense aux autorités politiques, je pense à Duplessis particulièrement. Et quand je pense aux autorités religieuses, ben je pense à l'évêque de Montréal et à leur attitude, disons, autoritaire, pour être gentil.
Je n'ai vu aucun écrit sur la censure dans les émissions radiophoniques. La censure semblait s'appliquer d'une manière beaucoup plus vive lorsqu'il s'agissait de conférences en salle ou de contacts directs avec le public, mais je n'ai pas vu d'écrit sur la censure comme telle. Il faut dire que Radio Collège prenait ses précautions quand même, parce que d'avoir pendant 2 ans présenté des émissions sur la syndicalisation en 1949 et en 1950, Radio Collège s'en est peut-être protégé en faisant présenter ses conférences par un sociologue qui était membre du clergé, l'abbé Gingras. Mais moi, ce que je dis, c'est que même si le discours de Gingras et de d'autres qui sont passés par Radio Collège avait parfois une saveur, je dirais, un peu moralisante ou fonctionnait dans un cadre clérical donné, n'empêche que le fait que les auditeurs étaient invisibles et permettaient aux gens de poursuivre leurs propres réflexions sans être ennuyés par un dialogue, une discussion, par un intervenant qui serait sur place. Donc, la liberté de poursuivre la réflexion pouvait s'installer dans la réflexion des gens qui écoutaient Radio Collège. Mais je n'ai pas vu de censure nulle part. Et ce qui m'a étonné beaucoup aussi, c'est les pièces de théâtre qui sont présentées quand même dès 1950. Camus a écrit Caligula en 1945, donc c'est relativement récent. Et là encore, on l'a présenté 3 fois. On a présenté Le Malentendu, on a présenté Les Justes, et donc il n'y a eu aucune réaction. Et je pense que c'est parce que la radio était gérée par le fédéral et que les dirigeants de Radio Collège ont bien précisé dès le début de leurs émissions que ça ne touchait pas l'éducation comme telle, qu'on n'était pas relié directement avec les collèges classiques. Et pourtant, moi, je me souviens que parce que les émissions avaient lieu de 16h à 18h à peu près, et très souvent que ça, dans les pensionnats, une fois que les cours étaient terminés, on allait écouter cette radio ou encore pour les enfants qui revenaient à la maison, la radio était ouverte et on attendait le début de l'émission. Mais c'est étrange quand même, oui, vous avez raison.
Je me demandais, vous venez de dire qu'à partir de 2004, la Société Radio-Canada a décidé de mettre un terme à l'existence ou à la vie avec Espace Musique de la parole à la radio. On peut se demander, j'aimerais savoir si ça vous intéresse, si vous avez continué de réfléchir là-dessus. J'aimerais savoir pourquoi on a mis un terme à cette présence de l'intelligence, de tout ce qui est l'expression de l'intellectuel, tout ça, dans les médias. On assiste de plus en plus à une vacuité, à une absence, finalement, grandissante. Et je trouve ça assez étonnant, compte tenu que dans ces années-là, les années 40, les années 50, on disposait de beaucoup moins de moyens qu'aujourd'hui. Alors, je trouve ça assez paradoxal.
Oui, je partage tout à fait votre angoisse, votre inquiétude. Il y a peut-être un mois, une table ronde à la Faculté de musique qui réunissait le directeur général de Radio Ville-Marie, Christiane Leblanc, qui représentait Radio-Canada. Il y avait Jean Boivin et Michel Duchesneau qui animaient. Et puis, il y avait Daniel Turpe qui... député dans l'opposition, mais qui dirige là un projet d'une radio Québec, dont la loi avait déjà été énoncée, d'ailleurs en 1945, mais n'a jamais été appliquée comme telle. Et lorsqu'on demandait à Mme Leblanc pourquoi il y avait eu vraiment cette reconfiguration totale de Radio-Canada, elle disait que c'est à la suite de sondages, de commentaires, disant que les gens ne voulaient plus entendre parler, mais voulaient uniquement avoir de la musique. Et donc, ils ont coupé énormément les commentaires. Même les commentaires sur les présentations des œuvres musicales sont réduits au minimum. Semble-t-il, bon, moi, je n'ai pas vu
Je trouve ça très faible comme argumentaire, parce que je pense qu'il faut aller au-delà de ça.
Ça serait à elle à lui poser la question. Oui, mais ce qui l'avait motivé, c'était d'enlever la parole, c'est-à-dire la réduire. Et c'est pour ça qu'évidemment, on a perdu plusieurs émissions d'information en littérature, en philosophie et dans tous les autres domaines. À sa décharge, elle disait qu'avec le site Internet, qu'il y avait beaucoup d'informations complémentaires qu'on pouvait trouver sur ce site. Mais ce n'est pas le propre que de Espace Musique actuellement et depuis quelques années. Nous vivons une situation où tout n'est que promotion. Il n'y a plus d'espace de réflexion. Et j'entendais hier, par exemple, aux nouvelles sur tous les problèmes économiques que nous vivons actuellement, on parlait de M. Friedman, un économiste très connu que moi, je ne connais pas. Et je me disais, mon Dieu, à la période où nous vivons, que ça serait important d'avoir une heure et demie d'émission à parler justement de tous ces économistes et autres, de nous donner de l'information plutôt que de simplement lancer. Mais ce n'est pas en mes moyens de pouvoir changer cette information. Ce que je voulais par cette recherche, c'est de montrer justement à quel point pendant 20 ans, cette série radiophonique a été un levier important. Elle a formé le public des théâtres, elle a formé le public de la musique classique, elle a formé le public à réfléchir par lui-même. Et donc, quand on arrive au début des années 60, comme Gilles Marcotte le disait, nous ne sommes pas d'une génération spontanée. Les choses avaient été préparées longtemps d'avance et on était prêts, on avait mûri ces réflexions-là. Mais je partage votre avis.
Merci. Félicitations. Merci.
On remarque que les animateurs de cette série-là sont des experts. En fait, c'est des spécialistes qui nous parlent. Est-ce que ce sont eux qui écrivent leurs textes?
Oui, ce sont eux qui écrivent leurs textes parce qu'on en retrouve plusieurs dans certains fonds d'archives de ces animateurs. Maintenant, ce n'étaient pas des spécialistes comme on l'entend aujourd'hui parce que lorsqu'ils commencent, ils ont à peine 30 ans. Je parlais de M. Citerne qui était professeur au Collège Brébeuf. Donc, ce sont des jeunes. Certains ont été formés. Marcel Trudel vient de terminer sa thèse de doctorat. D'autres reviennent de Paris. Hubert Aquin revient de Paris en 54. Donc, ils sont au tout début de leur carrière professionnelle. Et dans le fond, Radio Collège est un véritable tremplin pour eux pour justement ils deviendront les spécialistes, mais à partir de Radio Collège. Fernand Seguin, quand il commence à Radio Collège, il n'est pas encore l'animateur qu'on connaîtra plus tard. Oui, il enseigne en biologie, oui, il est déjà un spécialiste de la question, mais il est à ses tout débuts.
La question se posait pour moi pour Jean-Charles Bonenfant. Je me demandais qu'est-ce qu'il connaissait du théâtre.
Alors, très peu de choses probablement, mais il était là comme animateur. Et donc, comme il n'avait qu'à... Ah, OK, c'était pour les commentaires de... Mais c'est lui qui les écrivait, comme les trois autres animateurs dont je vous ai mentionné le nom écrivaient ces textes. Mais il s'agissait de résumer de textes et non pas d'analyse en profondeur. Il s'agissait de préparer les étudiants à chacune des scènes, donc le contexte culturel de ces grands classiques. Ça, je ne pense pas que, ça pourrait, que c'était vraiment des analyses en profondeur, pour le théâtre en tout cas. Vous avez tout à fait raison. C'est une plaie d'Égypte.
Mais quel est le rôle de la radio et la télévision d'État dans un contexte comme ça? C'est de compétitionner l'entreprise privée, c'est quoi?
Mais quand le Canal 10 est entré en onde, moi je travaillais, le premier paragraphe qu'on a eu sur la campagne d'automne, c'était « Tenant compte de notre adversaire ». Alors que c'est idiot, parce que Radio-Canada n'est pas, est financier, il ne devrait pas avoir cette compte. Et tout de suite, c'est de la concurrence, donc des codes d'écoute. L'argent.
Ah ouais.
Vous nous avez fait écouter quelques extraits de Radio-Collège. Alors, existe-t-il beaucoup d'archives encore qui restent de Radio-Collège? Et deuxième question, même si cette émission s'appelait Radio-Collège, il me semble, par la haute tenue de ces émissions, que cette émission s'adressait à un large public adulte. Alors, est-ce qu'on a des études montrant que cette émission était écoutée par un public adulte, largement?
À la première question, oui, il existe encore des témoignages, des archives Radio-Canada, mais ils sont très... par exemple, il y en a beaucoup pour les émissions scientifiques, très peu dans certains domaines. Donc, c'est très inégal, si vous voulez, comme archive, là. Mais oui, il y en existe à Radio-Canada, peut-être une centaine de documents sonores. Pour la deuxième question, c'était vraiment les jeunes qui écoutaient cette émission. Il ne reste pas d'archives de la réponse des questionnaires qui ont été envoyés, qui faisaient les sondages sous l'époque de Aurel Séguin, pour pouvoir affirmer avec vous qu'effectivement, c'est par les témoignages que j'ai pu recueillir dans les écrits. Quand Vaillancourt raconte ses souvenirs de sa période difficile sur la ferme dans les cantons de l'Est, il est jeune à ce moment-là. Et c'est la même chose pour Jean Sarrazin quand il rappelle les souvenirs. Mais c'était vraiment une radio qu'on avait dans les écoles. Par ailleurs, à partir de 1951, la série va évoluer vers un public plus large. Et plusieurs émissions auront lieu en début de soirée. Donc, on peut supposer que c'est un monde plus adulte qui écoute. Mais ce que je dis, c'est que ce monde jeune adulte qui écoute dans les années 50 avait été formé à partir de 1941-42. C'est une génération complète qui a grandi avec cette émission-là parce que 90% des jeunes terminaient une sixième année à l'époque. Et il y avait un vide incroyable au niveau de l'éducation. Les collèges classiques n'étant réservés qu'à une minorité. Et que donc, c'était vraiment quelque chose d'essentiel dont on avait besoin. On sortait de la guerre, on entendait parler de tous les mouvements, les journaux racontaient plein d'événements, et donc on avait besoin, on avait soif de culture et on avait besoin de connaître. Et je pense que ça demeure une émission qui s'est adressée, de par ses contenus, à une jeune clientèle.
Ça fait plaisir.